Tounou Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Tounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Rétine, cornée, iris, si ces muscles, membranes ou cellules oculaires sont assez connus du grand public, d'autres parties de l'anatomie de l'œil nous sont en revanche beaucoup moins familières. Et c'est précisément l'une de ces zones qui nous intéresse aujourd'hui dans Priorité Santé. Cette région, c'est la macula, une minuscule zone située au centre de la rétine, au fond de l'œil. La macula permet de percevoir les détails, cette vision fine. C'est elle qui est en jeu pour la lecture, pour reconnaître un visage, pour conduire, des compétences du quotidien, d'où l'importance de préserver cette région de la rétine et de sensibiliser sur les pathologies susceptibles de la dégrader de façon parfois irréversible. DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, maculopathie diabétique ou maculopathie myopique, parler des facteurs de risque, expliquer les symptômes, les signes qui doivent alerter, informer sur le dépistage, une prévention clé afin d'éviter les retards de diagnostic, favoriser la prise en charge précoce pour essayer de ralentir l'évolution des troubles, envisager peut-être une rééducation et si les atteintes sont déjà présentes, trouver des solutions, des adaptations pour que les personnes touchées puissent continuer d'exercer des activités stimulantes pour éviter que cette baisse de la vision se traduise par contre-coup par un déclin intellectuel. Et c'est demain que s'achèvent les 3e journée nationale de la macula. Pour en parler avec nous en studio, docteur Oudi Semoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en médecine spécialisée en chirurgie et pathologie ophtalmologique, praticien hospitalier à l'hôpital intercommunal de Créteil. Tout à l'heure, nous rejoindrons en République démocratique du Congo le docteur Magloire Nzolantima, chirurgien ophtalmologue à Kinshasa. En fin d'émission, le docteur Catherine Solano, médecin et sexologue, répondra aux questions des auditeurs. Et pour témoigner, pour poser vos questions, vos témoignages bien sûr, vous pouvez nous contacter à notre page Facebook et le numéro de téléphone de l'émission, le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Oudi Semoun, on va commencer par une petite leçon d'anatomie de l'œil. C'est vrai, le grand public n'est pas forcément familiarisé avec la maculée. Alors, c'est quoi précisément? Où est-elle localisée dans l'œil?
Alors, si vous voulez, on peut prendre une image. L'œil, c'est un peu comme un appareil photo. Alors, les anciens appareils photo argentiques, hein, puisque aujourd'hui, avec les nouveaux appareils photo, l'image ne marche plus trop, mais l'œil, c'est comme un appareil photo. La partie antérieure de l'œil, c'est ce qui va faire la mise au point, ce qui va rendre l'image claire. La partie postérieure de l'œil, la rétine, c'est la pellicule photo, là où est imprimée l'image, qui va être transmise au cerveau via des photorécepteurs, puis après toutes les voies neurologiques. Donc, la rétine, cette pellicule photo, elle a une zone centrale qui est très petite, 2 mm carrés, 3 mm carrés, et qui est vraiment au centre de la rétine et où vont converger tous les rayons lumineux que la partie antérieure de l'œil aura focalisé. Et à partir de cette petite zone, qui représente moins de 2% de la surface rétinienne, vont transiter 98% des informations visuelles, c'est-à-dire toute la visualisation des détails et de toute la vision efficace, la vision dont on a besoin pour effectivement lire, conduire, tricoter, bricoler et toutes les activités de la vie quotidienne.
Alors deuxième question, on reste toujours dans les fondamentaux, hein, docteur Oudi Semoun. Lorsque la macula est affectée par une pathologie, quelles conséquences pour la vision? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on ne voit plus ou qu'est-ce qui se voit désormais plutôt mal?
Alors, il n'y a pas une réponse, il y a plusieurs réponses parce que ça dépend de l'affection qui va atteindre la macula. On va dire que dans la majorité des cas, les symptômes les plus classiques, c'est une déformation des lignes, ce qu'on appelle les métamorphopsies. Lorsqu'on va regarder par exemple les carreaux dans la salle de bain, les carrelages, eh bien les lignes ne sont plus droites. Le deuxième type de symptôme qu'on peut avoir, c'est une tache centrale dans la rétine, ce qu'on appelle un scotome central. Alors, c'est pas toujours noir, ça peut être un peu gris, ça peut être un peu moins clair. On peut avoir aussi, dans les formes débutantes, une altération des couleurs. On peut voir un peu moins contrasté, des couleurs un peu moins vives. Et parfois, on peut ne pas avoir de symptômes alors que la maladie débute.
Et ces troubles dont, que vous venez de citer, ils sont intermittents ou ils s'installent de façon définitive? Une fois qu'ils sont là, on les a toute la journée, on les a au réveil le lendemain?
Une fois qu'ils sont là, ils sont là. Ils peuvent être un peu fluctuants, parfois un peu plus le matin ou le soir. Mais une fois qu'ils sont là, ils sont là. Et parmi les symptômes que j'ai oubliés, il y a bien sûr la baisse de vision.
La baisse de vision. Alors, docteur Oudi Semouna, la macula, on va parler de trois grandes pathologies. D'abord, la DMLA, c'est la première cause de malvoyance dans les pays du Nord après 50 ans.
Tout à fait. C'est la première cause, même si l'incidence, en tout cas la prévalence de la pathologie a diminué grâce aux nouveaux traitements qu'on a depuis une dizaine d'années, ça reste malgré tout la première cause de baisse de vision chez les sujets de plus de 55 ans dans les pays dits développés.
Alors cette dégénérescence maculaire, elle a deux formes, vous pouvez nous donner des précisions à ce sujet?
Effectivement, vous avez, c'est une affection hétérogène, vous avez deux grandes formes de maladie dans ce qu'on appelle la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a la forme atrophique, donc ou dite sèche, c'est probablement la forme la plus importante parce que sous-diagnostiquée. En fait, par des processus de dégénérescence, donc d'oxydation liée à l'âge avec d'autres facteurs dont on va peut-être reparler après, le tissu rétinien va s'altérer, va s'amincir, va s'atrophier, va mourir. Cette forme, malheureusement, n'a pas de traitement curatif aujourd'hui. La deuxième forme de DMLA, qui est la forme la plus connue et la forme qui se traite, c'est la forme dite humide. Alors, à cause de processus également liés à l'âge et également, on va dire, un terrain génétique favorable, on va avoir un vaisseau anormal qui va pousser sous la rétine au niveau de la macula et qui va saigner ou envoyer de l'eau, de l'œdème dans les tissus rétiniens et qui vont altérer le bon fonctionnement de la rétine.
Alors, autre pathologie, maculopathie diabétique, hein, ce mot de diabète dans le nom, docteur Oudi Semoun, on comprend bien que c'est en lien précisément avec cette maladie du système métabolique.
Tout à fait. La maculopathie diabétique est une des premières causes de baisse de vision dans le monde. Alors, le diabète peut donner différentes affections dans la rétine. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la maculopathie, donc la zone centrale de la rétine, la macula. Et on peut avoir également plusieurs affections de la macula liées au diabète, de l'ischémie ou de l'œdème. Et le traitement est globalement assez proche de celui de la DMLA, c'est-à-dire qu'on va traiter avec des injections, on en reparlera peut-être.
Et les facteurs de risque, justement, quand on souffre d'un diabète, d'avoir cette maculopathie, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est, par exemple, depuis le temps que la maladie s'est installée, qu'est-ce qu'il y a comme critère?
Tout à fait, la durée du diabète intervient, ainsi que l'équilibre glycémique, bien sûr. Le taux donc de glycémie dans le temps va directement influencer l'apparition d'une maculopathie diabétique, mais il y a également d'autres facteurs comme l'hypertension artérielle ou les facteurs de risque cardiovasculaire.
Alors, dernière grande pathologie de la macula qu'on évoque dans cette émission, maculopathie myopique, pour tous les myopes ou pour certains myopes?
Non, surtout pour les myopes forts. C'est vrai que les myopes, on dit à peu près 1 à 2% de la population. La myopie forte, la définition, c'est une myopie avec des lunettes dont le verre a une puissance supérieure à 6 dioptries.
Donc, c'est des personnes qui ne peuvent pas, par exemple, vivre au quotidien sans porter leurs lunettes, on va dire.
Impossible.
Docteur Oudi Semoun, est-ce que l'âge, c'est un facteur de risque pour ces trois maladies ou pour certaines d'entre elles seulement?
L'âge est un facteur de risque pour la DMLA, par définition. L'âge peut être un facteur de risque pour le diabète, puisque statistiquement, plus on prend de l'âge, plus le diabète est ancien. Pour la maculopathie myopique, en revanche, ça n'a pas été démontré.
Docteur Oudi Semoun, on va tout de suite entendre un témoignage.
Priorité santé sur RFI.
Ce témoignage, c'est celui de Roger Cohen. Il est âgé aujourd'hui de 89 ans. Il vit à Marseille. Il a, sur le plan professionnel, été architecte et pilote de ligne. Il a été aussi représentant de l'agence DMLA pour les Bouches-du-Rhône. Il est atteint d'une forme assez agressive de la maladie. Et les premiers symptômes lui sont apparus par une belle journée ensoleillée.
J'étais à un meeting aérien il y a 5 ans. Tout allait bien. Et quand j'ai repris ma voiture vers les 17 heures, Une chose bizarre s'est passée, c'est que les indications, vous voyez, direction Marseille, les panneaux verts, je ne les voyais pas distinctement. Et il y avait un manque d'acuité. Et je me suis un peu inquiété, j'ai été voir une amie qui est ophtalmo, et elle a décelé immédiatement que ma macula était attaquée.
Si vous vous êtes inquiété, c'est parce que vous connaissiez déjà cette maladie, ou c'est parce qu'en
général, vous étiez très attentif à
votre santé oculaire?
Pas du tout. D'ailleurs, elle m'avait donné une prescription peut-être 3 ou 4 mois avant, où il n'y avait absolument rien. Par contre, quand on m'a dit, si vous voyez les verticales ondulées, ou si vous avez une tache noire centrale, donc c'est un symptôme. Or, effectivement, moi, je voyais les lignes droites ondulées. J'étais consulté, évidemment, à Aix-en-Provence, un professeur qui, malheureusement, je l'ai eu que 2 mois après, a détecté donc que j'avais une dégénérescence maculaire.
Et justement, pour poser ce diagnostic, quels examens ont été faits?
Alors, simplement un fond d'œil où on voit la rétine. Si vous avez donc une attaque des néo-vaisseaux, automatiquement vous avez un œdème qui se forme sur la rétine. Et là, pour vite soigner, et c'est ce qu'on a fait, donc malheureusement 2 mois où j'ai perdu 2 dioptries, mais depuis 5 ans, on me traite.
Alors justement, du côté de ce traitement, vous pouvez nous décrire un petit peu ce qui se passe aujourd'hui pour vous?
On vous fait un fond d'œil. S'il n'y a rien, si par exemple la rétine est plate et qu'il n'y a absolument pas d'œdème, pas de problème. On vous reprend dans 5 semaines, on refait un contrôle. Mais si on voit qu'il y a un œdème, on est obligé de vous faire une piqûre oculaire. C'est-à-dire qu'on vous injecte un produit dans le vitré de l'œil. En bas de la pupille, voilà. Piquer un œil, en général, c'est le genre de truc qu'on n'aime pas. Mais bon, c'est pas douloureux du tout, parce que ils vont mettre des gouttes anesthésiantes. Simplement, quand vous voyez arriver l'aiguille dans l'œil, il y a eu une demi-seconde d'appréhension. Après, vous avez des petites bulles, et c'est terminé.
Et cette dégénérescence, elle concerne vos 2 yeux ou seulement l'un d'entre eux?
Ah ben moi, ça a commencé un œil, et après j'ai eu le deuxième.
Aujourd'hui, avec ce traitement, vous êtes rassuré justement sur l'avenir de votre acuité visuelle?
Oui. Ma vue est toujours pareille depuis 5 ans, c'est-à-dire que je vois bien, je conduis. Pour lire, j'ai un problème parce que, par exemple, sur le mot « lettre », il y a un T qui s'en va. Alors ça me gêne pour lire. C'est le seul vraiment problème que j'ai. Physiquement, ça ne me dérange pas du tout.
Et vous êtes aujourd'hui rassuré, vous êtes rassuré sur justement l'état de votre vue et tout ça en consultant à quelle fréquence votre ophtalmologiste?
En principe, c'est 5 à 6 semaines. Ma prochaine visite de contrôle aura lieu dans 3 semaines. Et là, on va voir, après la piqûre qu'on m'a faite, le résultat. Si la rétine est plate et il n'y a pas d'œdème, il me dit, bon, on reporte encore 5 semaines. Mais s'il y a un œdème, et automatiquement on me pique à peu près 3-4 jours après.
Témoignage de Roger Cohen, un joueur à Marseille. Docteur Oudi Semoun, c'est quoi précisément ce que l'on injecte dans l'œil de Roger Cohen? C'est quoi ce produit?
C'est un médicament qui s'appelle un anti-VEGF. Il y a 2 médicaments qui ont l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché aujourd'hui en France. Donc il y a ce qu'on appelle le ranibizumab, Lucentis, ou l'aflibercept, l'Eylea. C'est un médicament qui est très actif, mais qui a aussi des inconvénients, notamment sa durée d'action.
Dans son témoignage, ce patient parle beaucoup du temps, 2 mois, 5 semaines. Ça veut dire que quand le diagnostic est posé, le temps est compté, il faut aller vite pour intervenir?
Alors ça, c'est très important. Effectivement, la DMLA, en tout cas dans sa forme exudative néovasculaire, c'est la forme dont parlait votre auditeur, c'est une urgence. C'est une urgence. C'est-à-dire que lorsqu'on découvre une DMLA, il faut la traiter rapidement, ça veut dire dans la semaine en général, dans la semaine. On a l'habitude de dire que le temps, c'est de la vision. C'est-à-dire que le temps qu'on va perdre, c'est de la vision qu'on va perdre et qu'on pourra peut-être récupérer ou peut-être pas récupérer si on attend trop.
Docteur Oudi Semoun, votre spécialité, c'est donc la prise en charge de ces pathologies rétiniennes. Est-ce qu'il existe des profils à risque, des facteurs qui prédisposent à développer justement la DMLA, cette maladie dégénérative?
Oui. On sait que 70% des causes profond de l'ADMLA, c'est la génétique. Alors, c'est pas une maladie génétique, au terme où on l'entend, c'est-à-dire que le papa est atteint, les enfants vont être atteints, non. C'est un terrain génétique, des gènes qui vont nous donner une prédisposition. Sur cette prédisposition, il y a un terrain, donc, qui va développer une DMLA avec des facteurs environnementaux, notamment le tabac. On sait que les gens qui fument ont 3 à 6 fois plus de risques de développer une DMLA, la surcharge pondérale. Lorsqu'on a un antécédent familial, on a 4 fois plus de chances d'avoir une DMLA. L'alimentation est très importante. On sait que les gens qui mangent beaucoup de poissons gras, ça veut dire thon, saumon, hareng, maquereau, qui ont une alimentation équilibrée, méditerranéenne souvent, ont moins de DMLA.
Alors vous parliez, on a compris, de ce facteur temps, justement, insister sur un diagnostic précoce, docteur Oudi Semoun. Pourquoi se faire dépister? Quels arguments, justement, on doit avancer pour que les personnes pensent sérieusement à se faire dépister?
Aujourd'hui, toute personne qui a plus de 60 ans, 65 ans, est à risque de faire une DMLA dans notre société. Donc, c'est évident qu'il y a un bénéfice à se faire dépister, surtout si on a des antécédents familiaux. J'ai envie de dire surtout si on a une déformation visuelle, et là c'est plus du dépistage, il faut aller rapidement voir un ophtalmo.
Docteur Oudi Semoun, vous restez avec nous, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Premier auditeur, c'est une femme, c'est Mireille, qui est en ligne d'Afrique du Sud, de la ville du Cap. Bonjour Mireille.
Bonjour.
On vous écoute Mireille.
Comment j'ai une question à poser au docteur qui sait.
Oui, on vous écoute.
Comment je peux se protéger de cette pathologie, car je trouve des visions. Parfois, j'ai des larmes qui coulent dans mes yeux, des pigments, des baisses de vision. Je suis diabétique, ça fait plus ou moins 5 ans, et j'ai des problèmes aussi de l'hypertension artérielle.
Vous êtes diabétique, vous avez mal aux yeux, est-ce que vous avez consulté quelqu'un?
Non, pas encore, parce que je n'ai plus que...
Vous avez un diabétologue qui vous suit en Afrique du Sud ou peut-être quand vous rentrez chez vous?
Oui, bien sûr.
Et avec lui, vous avez évoqué justement les atteintes de l'œil liées au diabète?
Non, je n'ai pas dit ça.
Docteur Oudi Semoun, qu'est-ce que vous pouvez dire à Mireille, elle qui souffre de plusieurs pathologies chroniques, diabète notamment, problèmes ophtalmiques a priori, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Écoutez Mireille, je vais vous demander une faveur, courez voir votre ophtalmo. Parce que comme tous les diabétiques, vous devez avoir un fond d'œil annuel. En dehors de ces campagnes de dépistage dont on parle aujourd'hui, tous les diabétiques sont à risque de faire des lésions liées au diabète sur leur rétine et doivent avoir un fond d'œil annuel. C'est fondamental.
Qui plus est quand on a des signes ou des symptômes,
oui.
Docteur.
Alors ça, les larmes dont que vous évoquez ou la douleur sont probablement pas liées à une affection de la rétine, mais il mérite quand même qu'on s'y attarde et qu'on examine votre œil.
Mireille, vous avez les moyens, là, la possibilité dans cette ville du Cap d'aller consulter un médecin, de faire un examen de l'œil?
Oui, bien sûr.
Donc, ce conseil du docteur Oudi Semoun, hein, d'aller consulter justement pour faire un point, voir s'il y a quelque chose à faire. Et puis, bien évidemment, en parler avec votre diabétologue. Très bonne journée en Afrique du Sud. On va maintenant entrer en liaison avec la Guinée, Conakry. C'est Mamadou qui est en ligne. Bonjour, Mamadou.
Oui, bonjour, madame.
On vous écoute, Mamadou.
Alors, moi, je suis diabétique depuis 2012. C'est vrai que j'ai eu des problèmes des yeux, mais je crois que ça doit être lié un petit peu à l'âge, parce que j'ai un demi-siècle. Mais de temps à autre, je fais des consultations au Maroc, à Dakar, en Guinée, et même en France. Ma dernière consultation, c'était avec le docteur Guigui, à Parmentier. Il m'a regardé le fond d'œil et il m'a dit qu'en tout cas, il n'y a aucune anomalie liée à mon diabète.
Donc vous avez au moins un suivi ophtalmologique. Vous avez tout de même une question à poser au docteur Oudi Semoun?
Voilà, la question est la suivante. Docteur, est-ce que quand le diabète est équilibré, mais avec l'âge que vous parlez, est-ce qu'on a le risque d'avoir cette pathologie?
risque et peut-être aussi prévention, docteur Oudi Semoun, pour répondre à Mamadou?
Alors c'est vrai que lorsque le diabète n'est pas équilibré, c'est un risque qui est plus élevé de développer des atteintes de la rétine liées au diabète, mais même chez les patients qui ont un diabète équilibré, à partir d'une certaine durée de diabète, on parle de 10, 15 ans, parfois 20 ans, on peut avoir des signes de diabète sur la rétine. Donc il faut bien sûr continuer à vous faire surveiller. Les autres facteurs de risque, c'est l'hypertension artérielle et les autres facteurs de risque cardiovasculaires comme la dyslipidémie, le surpoids.
Donc voilà, Mamadou, mesure de prévention, bouger et puis ne pas trop prendre de poids, suivre bien sûr votre traitement pour le diabète. Très bonne journée à vous, à Conakry. Dernier appel d'un auditeur, c'est Gérard qui est en ligne du Sénégal de Dakar. Bonjour Gérard.
Bonjour.
On vous écoute Gérard.
Je suis atteint d'une DMLA depuis des années et des années. J'ai les deux yeux pris. Et je n'ai rien pu faire jusqu'à maintenant. On m'a fait des piqûres dans l'œil et ça n'a pas marché.
Vous avez quel âge, Gérard?
J'ai 84 ans.
Ça veut dire aujourd'hui que votre vue est très basse. Est-ce que vous êtes dépendant ou vous avez encore des marges de manœuvre pour faire certaines activités?
Je suis malvoyant et je suis dépendant. J'ai du personnel autour de moi pour me gérer parce que je ne peux pas lire, je ne peux pas écrire, je peux tout ce qui est... correspond à la vue, je ne peux plus. C'est fini.
Quand justement vous avez eu ce diagnostic de DMLA, est-ce que vous aviez des signes, des symptômes depuis longtemps déjà?
Ah oui, parce qu'on m'a dit la première fois qu'on m'a fait ça, on m'a fait 3 piqûres dans l'œil qui n'ont rien donné. Et puis là, quand c'était l'œil droit, quand l'œil gauche a commencé à être pris, j'ai revu l'ophtalmo qui m'a... Le diagnostic, finalement, m'a dit c'est pas la peine de faire des piqûres, il n'y a rien à faire. Voilà.
Il ne vous a pas conseillé d'autres traitements, docteur Oudi Semoun, comment vous réagissez après ce témoignage de Gérard à Dakar?
Écoutez, ce témoignage, il est touchant parce que ça pointe déjà le fossé qu'il y a entre les pays africains et les pays... d'Europe en tout cas, sur la prise en charge. Vous avez dit plusieurs choses très intéressantes. La première chose, c'est que vous avez une atteinte bilatérale. Effectivement, la DMLA, c'est la règle en général. Dans les 5 ans, dans les 10 ans, il y a une atteinte bilatérale. Vous avez dit que le traitement n'a pas marché. Alors ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on entend par pas marché? Il faut savoir que l'objectif du traitement, c'est déjà dans un premier temps de stabiliser la vision. C'est pour ça qu'on dit aux gens de consulter rapidement. D'accord? Les études montrent que, en moyenne, les gens gagnent 1 à 2 lignes de vision. C'est une moyenne, c'est statistique, ça dépend bien sûr de chacun. Donc, plus on prend tôt, bien sûr que meilleure sera la vision finale. Ensuite, effectivement, les injections doivent être répétées. Et ça a été aussi dit par le premier témoignage de Marseille tout à l'heure. Et ça, c'est très important, les protocoles thérapeutiques. Il y en a plusieurs avec des injections qui sont régulières à différents intervalles. Ça dépend des protocoles qu'on choisit. En tout cas, il faut un suivi régulier, ça c'est sûr. Et enfin, vous avez dit que vous êtes malvoyant. J'ai envie de vous dire que quel que soit le stade de la maladie, il y a des choses à faire. C'est-à-dire que même lorsqu'on est malvoyant, il y a des rééducations, il y a des systèmes optiques qui peuvent vous aider, il y a des orthoptistes formés spécialement à la basse vision qui vont vous aider à mieux voir, à mieux chercher les zones qui sont encore saines dans la rétine pour pouvoir avoir une activité, pour pouvoir essayer de lire un petit peu et de travailler.
On comprend en vous écoutant, ce n'est pas une cécité complète, docteur Oudi Semoun. Il y a des zones de vision très limitées, mais on voit encore, ça veut dire qu'en regardant certains côtés, qu'on peut encore percevoir des signes?
Oui, la DMLA ne rend pas aveugle, très clairement. Elle peut donner une baisse de vision sévère, effectivement, lorsqu'elle est prise assez tard ou lorsqu'il y a une hémorragie massive, c'est rare, mais ça existe. Mais classiquement, la DMLA ne rend pas aveugle, donc il y a toujours une zone de la rétine qui voit, et on va s'attacher à cette zone-là, on va la faire travailler pour essayer de gagner un petit peu de vision pour au moins les tâches de la vie quotidienne.
Merci beaucoup en tout cas de votre appel Gérard, merci de nous avoir appelé de Dakar. On a parlé justement de cet examen du fond d'œil. Pour tout ce qui est ophtalmique, un certain nombre de patients ont des réticences, on peut dire carrément ils ont peur d'aller passer les examens. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes justement pour rassurer, pour dire à quel point il est indispensable de procéder régulièrement à des tests pour savoir où en est justement cette rétine, docteur Oudi Semoun?
Je comprends cette peur, et c'est vrai qu'on l'aborde souvent en consultation parce que les gens ont peur soit du diagnostic pour certains, soit du traitement pour d'autres. Mais j'ai envie de leur dire ce que je leur dis d'habitude, c'est que cette peur ne disparaîtra pas s'ils perdent la vision. Leurs problèmes ne disparaîtront pas, ils seront encore plus difficiles à gérer s'ils perdent la vision. Donc non, il ne faut pas avoir peur, il faut venir puisque les traitements existent, ils sont efficaces et le patient pourra exprimer toutes ses craintes, on y répondra avec plaisir.
Justement, du côté des traitements, docteur Oudissemoun, quelles interventions sont possibles ? La chirurgie, par exemple, le recours au laser, dans quel cas ?
Non, le traitement laser, c'est le traitement historique de la DMLA. Il y a une vingtaine d'années, il y a une quinzaine d'années, on faisait du laser, soit du laser thermique, soit ce qu'on appelle la photothérapie. Donc aujourd'hui, non, c'est le cas classique, c'est les injections. En tout cas, pour ce qui concerne la DMLA, hein, la maculopathie diabétique, c'est un peu autre chose. Mais la DMLA, c'est des injections qu'on fait de manière répétée, avec des intervalles qui seront adaptés à notre patient. C'est le traitement de référence.
Tout à l'heure, quand vous parliez de la rééducation, cette rééducation qui peut s'avérer pertinente, même quand il y a une importante baisse de la vision, docteur Oudissemoun, de quoi s'agit-il ? Et cette rééducation, elle vise à quoi précisément ?
La rééducation, en fait, on va faire travailler les zones de la rétine qui sont encore saines, où il y a des photorécepteurs, pour que le patient apprenne à changer sa fixation et à aller fixer une zone de la rétine qui voit bien. Et avec un travail assidu, c'est pas facile, mais avec un travail assidu, les patients retrouvent un petit peu de vision, ce qui peut les aider dans leur vie quotidienne.
Alors, c'est pas de recouvrer la vue, mais c'est plutôt de regarder autrement.
Exactement.
Et justement, ces différentes thérapeutiques, généralement, il n'y a pas de guérison au bout du compte. C'est plutôt une façon de stabiliser l'évolution de la maladie, parce que dans la DMLA, il y a ce fameux terme de dégénérescence.
Oui. On ne guérit pas les patients, c'est vrai, on les soigne. C'est-à-dire que une fois que les lésions rétiniennes sont là, le néovaisseau est là, il est là. Mais ce qu'on va contrôler, c'est son activité. C'est-à-dire que les injections qu'on va faire vont avoir un effet sur l'activité. On peut comparer ça à un volcan, si vous voulez. Vous avez un volcan, le volcan, il dort. Et puis, de temps en temps, la Terre va un peu trembler. Et puis, le volcan va rentrer en éruption. Et on va envoyer les canadairs sur le volcan pour ne pas que la lave détruise toute la forêt autour.
Docteur Oudissemoun, on va tout de suite partir pour la République démocratique du Congo.
Priorité santé sur RFI.
Et pour y retrouver le docteur Magloire Nzolantima, bonjour docteur.
Bonjour Madame Paris, bonjour docteur Simoun.
Vous êtes chirurgien ophtalmologue à Kinshasa. Docteur Nzolantima, est-ce que vous avez des chiffres, des indications sur la DMLA en République démocratique du Congo ?
Alors malheureusement, nous n'avons pas de registre de malvoyance en RDC. Mais si on se base sur de nombreuses études qui ont été faites aux États-Unis sur les différentes communautés ethniques, il a été établi que la DMLA est rare chez les personnes noires.
Est-ce qu'on a des éléments pour expliquer ce fait ?
Il y a le facteur héréditaire dont on a parlé tout à l'heure. Et également, éventuellement, la pigmentation qui pourrait jouer un rôle.
Il n'y a pas de facteur d'âge, puisque vous parlez des États-Unis, ce n'est pas parce que les personnes ont une espérance de vie plus limitée.
En effet, on pourrait également parler du facteur âge pour la simple raison, si on prend le cas de la RDC, c'était l'espérance de vie pour nos alentours de 55 ans. Or, la DMLA, les premiers signes de la DMLA qu'on constatait, on va dire, aux alentours de 55 à 60 ans, ça pourrait être également un facteur.
Alors, docteur Magloire Nzolantima, quel traitement est proposé pour les personnes qui viennent en consultation chez vous et qui sont atteintes de cette maladie dégénérative ?
Alors, pour la forme, c'est ce qu'il a été dit, nous n'avons malheureusement pas de traitement, alors c'est pour nous. Et pour la forme humide, il faut donc assécher la macula et cela par des injections. Le seul problème des injections, c'est que l'injection coûte assez cher. Et donc, comme ça a été dit, ça doit être répété tous les mois.
Ça veut dire que le plus souvent, les patients n'ont pas les moyens de financer justement ce traitement.
Exactement.
Docteur Magloire Nzolantima, quelles mesures de prévention justement préconisez-vous, puisque le traitement n'est pas forcément abordable à chacun et à chacune, comment faire pour éviter d'arriver à un stade trop abouti de la maladie ?
Alors moi je conseillerais d'abord que l'on puisse avoir une culture du check-up, donc se présenter quand même assez tôt en consultation ophtalmologique. Et là, on a un bon plateau technique pour pouvoir poser le diagnostic. Le premier diagnostic qui est posé par le fond de l'œil. Moi, j'aime bien la photographie de l'œil parce que par la photo, ça nous permet non seulement d'examiner la macula, mais également d'examiner le nerf optique parce que vous savez que nous avons beaucoup de cas de glaucome en Afrique.
Et comment justement sont perçues au sein de la société congolaise les atteintes de la vision, docteur Nzolantima?
Alors, pour certains, la cécité est perçue comme étant un mauvais sort. Pour d'autres, c'est plutôt un regret de n'avoir été beaucoup plus tôt, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sensibilisées. Et c'est notre rôle, à nous, les ophtalmologues, de faire un peu plus de sensibilisation via des émissions à la radio ou bien à la télé, pour essayer de sensibiliser le maximum de personnes.
Merci beaucoup, hein, docteur Magloire Nzolantima, d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes chirurgien ophtalmologue à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Docteur Oudi Semoun, on vous retrouve dans notre studio. On a bien entendu la difficulté d'être prise en charge en RDC, hein, simplement la difficulté de payer le médicament, même si la situation n'appelle pas à la comparaison. C'est pointé régulièrement en France, justement, ce problème de délai non négligeable dans certaines régions en France pour prendre rendez-vous, hein, chez son ophtalmo pour des consultations. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est très important, quand on a des signes de DMLA, on ne va pas chez son ophtalmologue, on va aux urgences.
On peut aller chez son ophtalmologue. Si vous allez chez votre ophtalmologue,
si on a rendez-vous,
même si vous avez, si vous n'avez pas rendez-vous, appelez votre ophtalmologue. Visuelle centrale, une tâche centrale fixe dans la vision, je suis sûr qu'il vous prendra rapidement. De la même façon que lorsqu'on a une appendicite, on consulte. Lorsqu'on a des déformations, lorsqu'on a les symptômes de la DMLA, on consulte.
C'est pareil quand on va arriver en consultation aux urgences. Docteur Oudi Semoun, on va procéder aux mêmes examens, au fond d'œil, tout ce dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, effectivement. Alors le fond d'œil, c'est vrai que c'est un examen basique qu'on fait. Il ne suffit pas pour faire le diagnostic de DMLA. Il faut des examens un peu plus approfondis, notamment ce qu'on appelle un OCT. C'est une sorte, si vous voulez, de scanner de la rétine. Parfois, on fait une angiographie de la rétine. Aujourd'hui, il y a même une nouvelle technique qui s'appelle une angio-ECT. Ça permet de faire des angiographies, entre guillemets, sans injection. Donc oui, le fond d'œil est toujours la première étape. Mais il y a d'autres examens qui viennent derrière en général.
Alors, on a dit maladie du grand âge, d'où impact sur la qualité de la vision, mais pas seulement. Hein. Il faut évoquer les conséquences sur la qualité de vie en général, l'abandon de certaines occupations. On pense bien sûr à la conduite automobile, à la lecture. Et on le sait, c'est très important justement pour garder une stimulation des facultés cognitives, rester pimpant. Bref, quand on est atteint des DMLA, on risque d'aller plus rapidement vers la dépendance.
Évidemment, lorsqu'on a une DMLA, ça va affecter notre vie quotidienne. Bien sûr, la conduite, puisque pour conduire, il faut avoir 6 dixièmes au meilleur œil, pour pouvoir, c'est la loi. Ensuite, pour tout ce qui est de la vie quotidienne, de la lecture, on a l'habitude de dire aux patients de faire le maximum pour continuer à lire, pour travailler. C'est un peu le principe de la rééducation dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça va atteindre, et ça, les patients s'en plaignent en général, en premier, la vision de près, la DMLA. Et donc la lecture, souvent ils ont du mal à faire des mots croisés, à faire le tricot, ou à faire des petits bricolages comme ça. Voilà.
Et c'est quelque chose qui est véritablement abordé en consultation ophtalmo.
Oui, bien sûr. Oui, c'est une préoccupation majeure des patients.
Avec justement, est-ce que vous l'avez constaté justement, vous, avec certains de vos patients, certaines compétences intellectuelles qui diminuent, avec y compris donc une inquiétude de la part de l'entourage de ces personnes atteintes?
Non, pas du tout. Il n'y a pas d'altération des compétences intellectuelles. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que parfois les patients dépriment parce qu'ils ne peuvent plus faire tout ce qu'ils faisaient avant. Patients qui étaient des grands lecteurs et qui ont une vision déformée, c'est vraiment très pénible, mais les facultés intellectuelles restent intactes.
Alors justement, on disait pour éviter de perdre ces bonnes habitudes, des conseils pratiques, des adaptations, des aménagements. Vous donnez aussi ce type de conseils en consultation, docteur Semoun ?
Oui, le premier conseil que je donne aux patients qui n'arrivent plus à lire, c'est d'utiliser soit une tablette, soit leur téléphone pour photographier un document qu'ils veulent lire et l'agrandir et pouvoir jouer avec les contrastes. Il y a même des industriels qui ont développé des applications très intéressantes qui utilisent l'intelligence artificielle pour prendre en photo, par exemple, un objet. Et l'application va vous dire qu'est-ce que c'est comme objet. Il va vous dire quelle couleur vous avez devant vous. Par exemple, si vous voyez pas bien les couleurs et vous voulez vous habiller. Ou alors, l'étape d'après, c'est la reconnaissance des visages avec ces applications. Donc, le téléphone, la tablette reste un outil pour moi très important pour l'adaptation une fois qu'on a la pathologie.
Et en matière, justement, de prévention, on l'évoquait tout à l'heure rapidement. Est-ce qu'il y a des conseils, des préconisations du côté de l'alimentation?
Bien sûr. Lorsqu'on a des antécédents familiaux de DMLA, lorsqu'on a des premiers signes de facteurs précurseurs de la DMLA, ce qu'on appelle les drusènes, au fond d'œil, c'est pas exactement la DMLA, c'est une forme, on va dire, une forme précurseur, donc qui est à risque de développer de la DMLA. On va conseiller aux patients d'arrêter de fumer lorsqu'ils fument, d'avoir une alimentation équilibrée, riche en poissons gras, riche en brocoli, épinards, voilà, qui vont apporter des antioxydants, des oméga 3, des médicaments qui vont être riches en vitamine C, E notamment ou en caroténoïdes. On peut aussi conseiller...
Avec le vieux dicton que les carottes c'est bon pour la vue, c'est vrai?
Oui, c'est plus qu'un dicton, c'est une réalité. Donc on va conseiller parfois aussi dans certaines situations, lorsqu'on a vraiment des lésions à risque dans la rétine de développer une DMLA, on va conseiller des compléments alimentaires qui vont être riches en pigments maculaires, qui vont renforcer la macula et qui ont clairement démontré leur efficacité pour freiner la maladie.
Alors on a parlé dépistage, prévention, et demain, docteur Oudi Semoun, est-ce qu'il y a des pistes de recherche, des innovations thérapeutiques à quelques années pour donner un espoir à certaines personnes qui sont atteintes?
Oui, normalement, en 2019, on espère que deux nouveaux médicaments seront disponibles. Il s'agit toujours de la même famille de médicaments, des anti-VEGF, mais avec ces médicaments-là, on espère injecter moins les patients, avec des injections qui durent 3 mois dans l'œil, peut-être plus, ça dépend des patients. Ça, c'est les deux innovations majeures et pratiques qu'on attend vraiment pour bientôt. Alors après, vous savez, la recherche, c'est vaste. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Malheureusement, un médicament pour sortir doit subir tout un tas de processus et de filtres, et la majorité des médicaments qui sont testés finalement ne seront pas mis sur le marché.
Mais on est toujours sur ce traitement, on peut dire relativement invasif avec cette injection, on n'est pas sur d'autres pistes pour l'instant, d'autres protocoles?
Il y a des pistes, il y a notamment des colliers, il y a des études qui en complément d'injection permettraient vraiment de ralentir le nombre d'injections, ou alors des comprimés, mais ça pose des problèmes de tolérance, donc ça pose d'autres problème, et c'est pour ça que malheureusement pour l'instant c'est pas encore à l'heure du jour.
On disait en début d'émission, hein, journée de la macula, ça veut dire qu'aujourd'hui il faut vraiment communiquer sur ce problème ophtalmologique parce que les personnes ne sont pas suffisamment au courant, docteur Oudi Semoun?
Oui, bien sûr. Alors il y a quelques années, on avait fait un sondage sur la connaissance de la population du terme DMLA et les résultats étaient assez catastrophiques. Aujourd'hui, avec les campagnes de dépistage, on voit que les gens de plus en plus connaissent ce terme, ce sigle DMLA, même s'ils ne savent pas forcément dire chaque lettre à quoi elle correspond, mais ils le rapportent aux pathologies oculaires dans la majorité des cas.
Est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans les services dédiés aux personnes âgées, dans les EHPAD en particulier, il y a des consultations spécifiques?
Pas toujours, malheureusement, mais c'est vrai que c'est une piste pour l'avenir.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur Oudi Semoun. Je rappelle que vous êtes praticien hospitalier à l'hôpital intercommunal de Créteil, spécialisé en chirurgie et pathologie ophtalmologique. La santé sexuelle sur RFI, on en parle bien sûr dans Priorité Santé avec vous, docteur Catherine Solano. Docteur Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
En ligne avec nous, c'est Moustapha, il est à Bamako, au Mali. Bonjour Moustapha.
Oui, bonjour docteur Catherine Solano, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
On écoute votre question Moustapha.
Oui, au fait, j'ai une préoccupation concernant la santé sexuelle. Au fait, je remarque qu'après 5 minutes d'amour, généralement on est détendu, on est relaxé, et c'est ce qu'on appelle la période réfractaire. Donc on n'a plus le goût d'en refaire, on est découragé. Et souvent il va de soi que la femme ne soit parvenue à son orgasme. Donc j'aimerais savoir quel est le temps normal pour qu'on puisse reprendre. Parce que d'habitude, si je le fais, après, le temps réfractaire va plus loin de telle sorte que moi-même, je n'ai plus l'envie de refaire et je dors. Ou bien, souvent même, voilà, j'arrête.
Docteur Solano, donc cette question sur l'activité, quand on veut faire, on va dire, plusieurs fois l'amour, avoir, voilà, si vous le dites comme ça, on va dire comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire à Mustapha ?
Eh bien, d'abord, c'est normal qu'il ait envie de dormir, parce que ça, c'est dû à la décharge d'ocytocine, qui est une hormone au moment de l'orgasme, et qui est aussi sécrétée quand une femme allaite son bébé, c'est pour ça qu'on a envie de dormir quand on allaite. Bon, ça, c'est le petit parenthèse. Et donc, Mustapha, ce que je voulais vous dire, c'est que la période réfractaire, déjà, il y a deux périodes réfractaires. Donc, quand vous venez d'avoir un orgasme, c'est normal de plus avoir du tout d'envie. Il y a même des hommes qui disent « je supporte pas qu'on me touche la zone sexuelle » ou même tout le corps à ce moment-là, « je sors du lit » même, ou des femmes qui disent ça aussi des fois après l'orgasme. Et donc, c'est normal. Cette période réfractaire, je peux pas vous donner un chiffre, hein, pour la bonne raison que ça dépend de l'âge. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez 18-20 ans, cette période réfractaire, donc vous avez eu un orgasme, une éjaculation, vous pouvez recommencer quelques minutes après. Pour certains, c'est quelques secondes, 5 minutes, 10 minutes, voilà. Et avec l'âge, ça va s'allonger à 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, 3 heures, un jour ou deux parfois quand on atteint 80 ou 90 ans. Donc, c'est assez variable selon les personnes. Bon, mais il y a des hommes de 45 ans chez qui ça dure toujours 10 minutes. Donc c'est individuel. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup vous dites le problème c'est si ma partenaire n'a pas eu d'orgasme. Effectivement, s'il faut attendre 3 heures, c'est long. Ce qu'il faut c'est se dire il faut que ma partenaire ait un orgasme avant que j'aie le mien. C'est-à-dire que vous allez faire des caresses au niveau du clitoris, des pénétrations avec un doigt par exemple ou deux, j'en sais rien, avant de faire la pénétration si vous savez que ça ne durera pas assez longtemps pour qu'elle ait son orgasme. Il faut, je dirais, tâtonner, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il faut s'entraîner, apprendre à se connaître pour que tous les deux soient comblés par le rapport sexuel, je dirais, vous voyez ? Et donc, j'ai dit qu'il y avait une deuxième période réfractaire. C'est très important. Il y a une deuxième période réfractaire qui est ce qu'on appelle la période réfractaire éjaculatoire. C'est-à-dire que là, on parlait du temps qu'il faut pour avoir une deuxième érection. Eh bien, il faut aussi un certain temps pour avoir une deuxième éjaculation. C'est-à-dire que, imaginez votre période réfractaire, c'est 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vous aviez envie de dormir, vous étiez fatigué, puis vous dites, oh, finalement, je recommencerai bien. Eh bien, peut-être que vous n'est pas réussir à avoir une éjaculation parce que c'est un petit peu comme quand vous avez une éjaculation, comme si le corps avait besoin de recharger sa batterie et il lui faut peut-être un quart d'heure. Donc, on peut très bien avoir une érection et ne pas réussir à avoir une éjaculation la deuxième fois. Et les deux périodes réfractaires sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que des fois, même si ça marche une deuxième fois, l'éjaculation est difficile à arriver. Bon, j'espère que je suis claire.
Voilà, Mustapha, pour cette réponse de Catherine Solano. Vous avez une autre question ?
C'était l'unique question que j'avais. Mmh. Et vraiment, je suis satisfait de la réponse. Merci à toute l'équipe Priorité Santé.
Merci beaucoup, Mustapha. Excellente journée pour vous à Bamako, au Mali. Et on a une question Facebook, Docteur Solano. Cette question est signée Abdoulaye. Il voudrait savoir quelles sont les différentes sortes de stérilité chez la femme.
Alors, je voudrais d'abord donner une petite précision sur la stérilité, c'est que c'est pas toujours dû à la femme.
Mais là, la question porte sur les femmes. Voilà. Mais il y a aussi des stérilités masculines.
Voilà, c'est un tiers dû aux hommes, un tiers dû aux femmes et un tiers, c'est une hypofertilité. Non, c'est un petit peu des deux.
Ah, c'est les deux.
C'est les deux qui sont pas très fertiles, donc ça met du temps et on a peur d'une stérilité, mais en fait, non. Donc, là, il parle que de la femme. Donc, quand c'est de la femme, il y a beaucoup de raisons possibles. D'abord, la première qui est pour le couple, c'est les rapports sexuels trop espacés ou qui ont lieu à des moments où la femme n'est pas fertile. Ça arrive quand une femme est infirmière de nuit, son mari travaille de jour ou qu'il est pilote d'avion et qu'il revient pas tout le temps. C'est hyper important parce que des fois, on fait des bilans pour rien ou des gens qui habitent séparés, qui se voient pas souvent. Si ça tombe au mauvais moment, ça peut durer longtemps. Ensuite, bon, ça, c'est pas vraiment des problèmes médicaux, mais c'est important. Les problèmes hormonaux. Une femme qui a des problèmes hormonaux, ça peut être divers, elle peut ne pas avoir d'ovulation. Ben, s'il n'y a pas d'ovulation, elle ne pourra pas mettre en route une grossesse. Il y a des problèmes infectieux au niveau génital qui peuvent abîmer les trompes et l'utérus, en particulier évidemment les infections sexuellement transmissibles. Ça peut être les chlamydiés, le mycoplasme, le gonocoque. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est très important d'utiliser des préservatifs pour ne pas avoir d'infection génitale et pas de stérilité plus tard. Il y a aussi des infections qui ne sont pas du tout des infections sexuellement transmissibles. Par exemple, une péritonite, c'est-à-dire une femme qui a l'appendicite, qui a une péritonite, elle a une infection dans le péritoine et ça peut appuyer sur les trompes, les boucher, faire des adhérences et c'est pas si rare. Après, il y a les problèmes mécaniques. Par exemple, une femme qui a des polypes ou des fibromes au niveau de l'utérus, ben, ça peut empêcher la fécondation ou bien l'implantation ou le développement de l'embryon. Puis, il y a des malformations génitales, il y a des problèmes génétiques qui font qu'on n'arrive pas à fabriquer un petit embryon viable. Il y a aussi des femmes qui ont eu des traitements médicaux agressifs comme des chimiothérapies. Et puis, évidemment, il y a l'âge, parce qu'on sait que la fertilité diminue à partir de 35 ans. Et évidemment, quand une femme est ménopausée, ben, elle est plus fertile, hein. Ça, c'est sûr.
Et il y a aussi l'endométriose.
Oui, exactement, l'endométriose qui souvent donne des problèmes mécaniques parce que ça va boucher les trompes, etc. Oui, oui, tout à
donc
fait.
Donc, il faut un bilan, faire un bilan justement pour essayer d'évaluer la cause réelle de cette
l'infertilité. Et voilà. Et par contre, ce que je viens d'expliquer répond aussi à une question. Est-ce qu'on peut savoir qu'on est fertile ou pas avant de chercher à mettre en route une grossesse? Ben non, parce qu'on va pas vous faire plein de bilans, plein d'examens, plein de choses compliquées, chères et agressives des fois, alors que vous n'avez même pas essayé, que dans un mois, vous serez peut-être enceinte si vous essayez.
Alors justement, c'est quoi le temps à partir duquel on commence à faire toute une série d'examens?
Alors, avant, on disait toujours, il faut attendre 2 ans, parce qu'au bout de 2 ans, 90% des couples ont une grossesse en route. C'est bien quand on est jeune, quand on est un petit peu moins jeune, vers 35 ans, on attend plutôt 1 an avant de commencer à faire des bilans. On commence par les bilans les plus simples, et puis si ça vient toujours pas, on fait des bilans un peu plus compliqués.
Si vous souhaitez poser d'autres questions au docteur Catherine Solano, vous pouvez, bien sûr, nous contacter par la page Facebook de l'émission et aussi notre numéro de téléphone 33 1 84 22 75 75. Vous laissez votre numéro et on vous rappelle.
Priorité santé sur RFI.
Et le docteur Catherine Solano, sexologue, eh bien vous la retrouverez bien sûr jeudi prochain, une émission complète, 50 minutes de questions-réponses et ce sera une libre antenne pour vous auditrices et auditeurs, plaisir, désir au féminin, au masculin, amour, jalousie, toutes les questions qui vous passent par la tête. On l'a compris, hein, notre page Facebook, vous laissez donc votre question, vos coordonnées. On vous rappelle et on vous donne la parole. Ce sera donc jeudi prochain. Et Priorité Santé, c'est aussi sur notre application Pure Radio, sur le site internet rfi.fr, rubrique émission. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Assez tous à maquiller Ophélie Lassène, Sigrid Azeroual et Didier Bleu. Demain, nous parlerons des pathologies du voyage, se vacciner, les mesures de prévention, bien préparer le départ pour éviter les mauvaises surprises pendant et après une visite loin de chez soi. Vos questions, bien sûr, au 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.